Attention, attention, RH moins 10 secondes. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,
la radio sauvage.
0.
Quelle heure est-il ?
Et 6 heures exactement.
Avant minuit, minuit.
Qu'est-ce qui se passe ?
Eh ben, il est 6 heures.
C'est l'heure. Il est l'heure.
6 heures.
Avant minuit.
Yes, man.
C'est 7h minuit, alors je suis pas bon.
6h avant minuit, 18h, 19h, sur Syllab,
la radio sauvage.
Lundi 24 novembre 2025, il est 6h avant minuit, vous écoutez l'émission d'info locale quotidienne de Syllab, merci à vous. Et un nouveau jeu concours sur notre antenne, cette fois Syllab vous offre deux places pour une des soirées des rencontres transmusicales au Parc Expo. Ça se passe les 4, 5 et 6 décembre prochains. Pour tenter de gagner une entrée pour cet événement rennais incontournable, vous aurez besoin d'un mot de passe qui est... chenille. Oui, parce que comme la petite chenille qui deviendra papillon, les artistes émergents que vous allez découvrir au trans seront peut-être les Daft Punk ou les Stromae de demain. Et puis en plus, il y en a une de petite chenille parmi les nombreux animaux présents sur l'affiche de cette année. Donc, rendez-vous sur c-lab.fr pour choisir le bon mot de passe. Les soirées attribuées aux gagnants et gagnantes seront tirées au sort. Tout de suite, le flash de l'Afken.
Pas de pardon pour Israël. Hier, l'État hébreu a communiqué le renvoi de 3 généraux israéliens actifs le 7 octobre 2023. Ils seront déchargés du cadre de réserve et ne feront plus partie de l'armée. La raison, leur échec à empêcher l'attaque terroriste du Hamas ce jour-là. Un contexte de rancœur en Israël donc, alors que le pays annonce ce matin avoir abattu 3 personnes qui franchissaient ses nouvelles frontières. Un ultimatum, un plan de paix brouillon, les discussions autour du plan Trump pour l'Ukraine se poursuivent sous tension. Depuis hier, Américains, Ukrainiens et Européens négocient à Genève. Une nouvelle version du plan en 19 points semble émerger. Roman fait le point.
Sans surprise, la contre-proposition de ces dernières heures ne plaît pas du tout à Vladimir Poutine. Son conseiller pour la politique étrangère, Loury Ushakov, a estimé le plan européen, je cite, « totalement non constructif ». Il ne nous convient pas, a-t-il ajouté. Il y a quelques heures, Moscou saluait pourtant des échanges productifs dans un communiqué commun avec Volodymyr Zelensky. Mais le chef de guerre ukrainien a aussi nuancé « une paix réelle nécessite beaucoup plus », selon lui. Voilà pourquoi l'Union européenne a annoncé aujourd'hui un nouvel élan dans les négociations.
Et qu'est-ce qui apparaît dans le nouveau plan, Roman ?
Le plan en 28 points a été révisé, il n'en reste plus que 19 après les discussions avec Genève, et certains points en faveur de la Russie auraient été retirés selon le journal The Guardian. Dans les étapes que nous avons coordonnées avec la partie américaine, nous avons réussi à inclure des points extrêmement sensibles, a affirmé le président ukrainien. Washington promet aussi d'intégrer des garanties de sécurité crédibles et un traitement plus clair sur la question des prisonniers. Une nouvelle version du plan de paix a été rédigée par les États-Unis et l'Ukraine. Elle doit respecter pleinement la souveraineté de Kiev, contrairement à la première version du texte jugée trop favorable à Moscou.
Que comprend exactement le texte initial ?
Le cœur du document prévoyait la cession totale du Donbass à la Russie, une réduction de 50% des effectifs militaires ukrainiens, l'abandon des armes à longue portée et même une amnistie générale, y compris pour les crimes de guerre. Le texte évoque aussi une réunification familiale pour les enfants ukrainiens déportés en Russie, une formulation qui a choqué Kiev. Enfin, il imposerait à l'Ukraine de renoncer définitivement à l'OTAN.
Et du côté des Européens, quelles sont les réactions ?
Les Européens saluent globalement les progrès dans les discussions de Genève, avec toutefois de la prudence. Pour Ursula von der Leyen, il reste encore du travail. De son côté, le Conseil européen insiste sur la nécessité d'une pleine implication de l'Union européenne, notamment sur les sanctions et la sécurité européenne. Pour Antonio Costa, le président du Conseil européen, nous assistons à un nouvel élan dans les négociations de paix sur l'Ukraine. Vendredi, Volodymyr Zelensky a pu s'entretenir avec les dirigeants européens. Pour lui, le chancelier allemand Friedrich Merz, le président français Emmanuel Macron et le premier ministre britannique Keir Starmer ont montré une motivation à créer une contre-proposition au plan américain. Pour eux trois, la situation en Ukraine implique les intérêts de l'Europe et de l'OTAN et nécessite au plus vite une paix juste et durable. Cependant, le chancelier allemand a jugé improbable une percée cette semaine dans les négociations sur le plan de paix pour l'Ukraine. Donald Trump avait laissé jusqu'au 27 novembre pour conclure un accord de paix. Il n'est pour l'instant pas revenu sur cet ultimatum.
Et malgré les débats internationaux, la situation semble encore loin d'une solution pacifique. Sur le front, une attaque de drones russes a fait cette nuit 4 morts et 17 blessés. Demain matin, Emmanuel Macron sera l'invité de RTL. Il devrait notamment revenir sur la situation en Ukraine et sur les menaces qui pèsent sur la France. Emmanuel Macron va-t-il annoncer que nous sommes en guerre ? Hier, la Tribune Dimanche a publié un article au sujet d'un possible service militaire volontaire, des informations que la ministre déléguée aux armées Alice Ruffo a confirmées hier sur France Info. Selon plusieurs journaux, le président de la République a affirmé samedi dernier que, si nous voulons véritablement être en sécurité, la France doit continuer d'être une nation forte avec une armée forte. Attendu en Isère jeudi, Emmanuel Macron devrait s'exprimer sur le sujet. La Belgique va-t-elle sortir ses gilets jaunes ? Le pays du Mannequin Peace se prépare à son plus grand mouvement social depuis 45 ans. Transport, école, administration ou encore hôpitaux, la Belgique vise la grève générale d'ici mercredi. La raison, la politique du Premier ministre De Wever est qualifiée de démantèlement social par les syndicats. Avec le 4e plus gros taux d'endettement de la zone euro, la Belgique continuera ses débats sur l'austérité et les retraites. Avec la Fnac dans le viseur, la Chine ne veut plus lâcher le marché français. Le géant chinois de l'e-commerce JD.com rachète aujourd'hui le distributeur allemand CIO Economy, deuxième actionnaire de la Fnac Darty. Avec une transaction supérieure à 2,2 milliards d'euros, la Chine devrait posséder presque 22% de la Fnac. Une menace pour la souveraineté culturelle et économique de la France, selon le ministère de l'économie. Pendant plusieurs semaines, Bercy analysera donc les enjeux et risques de ce rachat, avec la possibilité de bloquer un certain pourcentage d'actions. C'est une première en 14 ans d'existence pour le festival I'm From Rennes. Le rendez-vous musical en plein air est aujourd'hui en danger. L'édition 2025 accuse un déficit de 40 000 euros, en grande partie à cause d'une météo catastrophique. Cédric Bauchu, programmateur du festival, explique la situation au micro d'Estelle.
La chose, elle est très simple, c'est que on pourra évidemment ne pas faire d'édition 2026. Je pense qu'on sera obligé de faire une pause, clairement.
Cette année, le festival n'est pas passé entre les gouttes. I'm From Rennes affiche un déficit de 40 000 euros lié principalement aux intempéries.
Du fait qu'il y ait eu un mauvais temps, on a eu beaucoup moins de monde et puis des gens qui n'avaient pas forcément envie de consommer plus que ça, puisque quand il pleut ou quand il fait froid, bah évidemment, c'est beaucoup moins joyeux et on a beaucoup moins envie de boire des verres entre amis. Donc la situation fait qu'aujourd'hui, on a été obligé de lancer une campagne de financement participatif qui fonctionne plutôt très bien.
La cagnotte participative, ouverte depuis le 4 novembre, a déjà récolté un peu plus de 6 000 euros sur les 20 000 attendus. Au-delà du soutien financier, l'équipe dit recevoir de nombreux messages du public culturel, rappelant l'importance du festival dans le paysage rennais.
Il ne faut pas oublier que Rennes, ville musicale, nous, on y participe comme plein d'autres acteurs. On a cette spécificité de pouvoir travailler que sur une scène locale et c'est ça qu'il faut défendre en fait.
Pour comprendre le problème, il faut regarder la structure budgétaire du festival. Une part importante vient de l'autofinancement.
Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on s'autofinance sur le budget à hauteur des trois quarts. Et du coup, ça passe par le bar et la restauration notamment, quoi. Et le reste, c'est des subventions ou du mécénat. Nous, ça n'a pas forcément été des grosses baisses de subventions, mais vu qu'on fonctionne vraiment à la limite financièrement, aujourd'hui, le modèle économique ne fonctionne plus puisqu'on a perdu certaines subventions, quoi.
Face à ces tensions financières, la même question revient. Faut-il rendre I'm From Rennes payant ?
Nous, c'est vraiment pas notre idée. D'une part, parce qu'on souhaite vraiment que cette culture elle soit accessible à toutes et à tous. Et la seconde chose, c'est que comme on travaille sur la scène locale et la scène émergente, nous, notre projet, c'est vraiment qu'il y ait un maximum de public présent pendant les concerts de la scène locale.
Pour préserver l'identité du festival, l'équipe mise sur un financement participatif accessible en ligne.
Alors, on peut le retrouver sur notre site internet, on peut le retrouver évidemment sur les réseaux sociaux, et autrement, c'est via la plateforme qui s'appelle Hello Asso. Comme je dis tout le temps, il n'y a pas de minimum ou maximum. Ça permet justement de réfléchir à une prochaine édition en 2026.
Un défi de taille pour I'm From Rennes, réunir 20 000 euros pour espérer proposer une nouvelle édition en 2026. Une course contre la montre donc pour sauver un festival devenu emblématique et gratuit. À Rennes, la France Insoumise se qualifie pour la course aux municipales. Vendredi dernier, la députée LFI Marie Mesmer a annoncé sa candidature pour les élections rennaises de 2026. Pour l'heure, voici donc la liste des 7 concurrents et concurrentes pour la mairie de Rennes. Marie Mesmer pour la France Insoumise, Charles Compagnon pour Horizon, Thomas Rousseau pour les Républicains, Julien Masson pour le Rassemblement National, Ulysse Rabaté pour Rennes Commune, Hérel Duclos pour Révolution Permanente, et enfin la maire sortante Nathalie Appéré, la socialiste soutenue par l'Union des Gauches hors LFI, espère un troisième mandat. Et pas encore de saison 3 donc pour Nathalie Appéré, mais une saison 10 pour les Mardis de l'égalité à Rennes 2. Depuis 2016, l'Université de Rennes 2 organise ses séminaires pour sensibiliser sur les questions d'égalité, projection, temps d'échange et de réflexion, débat. L'événement en lien avec Mission Égalité débute dès demain avec une projection sur les VSS à l'université, suivie d'un débat. Pour y assister, rendez-vous demain donc 18h au Tambour. Des rediffusions seront aussi disponibles sur YouTube. Pour avoir toutes les informations sur cette 10e édition des Mardis de l'égalité, foncez sur le site de l'Université de Rennes 2.
Merci Lafken, à la semaine prochaine pour un nouveau flash. Et c'est l'heure de l'interview.
Pas grave. 6h. Minuit, pourquoi ?
Syllabe.
Il est midi.
La radio sauvage.
Minuit.
Et à minuit, plus personne.
6h avant minuit.
L'interview avec Estelle ce soir. L'Observatoire de l'environnement en Bretagne vient de publier l'édition 2025 de ses chiffres clés de l'énergie et des gaz à effet de serre. Production, consommation, empreinte carbone, dépendance énergétique, ce rapport dresse un état des lieux précis de la situation bretonne. Pour comprendre ces données et ce qu'elles nous racontent du territoire, nous accueillons aujourd'hui Ayed Lacroix, qui porte un collier de plumes, chef du pôle climat et ressources à l'OBE. Bonsoir.
Bonsoir.
Est-ce que pour commencer, vous pouvez nous expliquer l'Observatoire de l'environnement en Bretagne et sa mission ?
Bien sûr. Alors, l'Observatoire de l'environnement en Bretagne, c'est un groupement d'intérêt public qui accompagne depuis 2007 la mise en œuvre des politiques publiques de l'environnement en Bretagne dans deux domaines d'action, l'accès à la connaissance environnementale et l'observation. L'Observatoire, il est administré par l'État, la région Bretagne et aussi 26 collectivités membres. Et on produit des indicateurs, des tableaux de bord qui sont indispensables aujourd'hui à la compréhension de l'évolution de nos territoires et au suivi des politiques publiques. Avec ces productions, l'Observatoire doit contribuer à fiabiliser la décision et la transparence sur les données, et il doit aussi faciliter le dialogue entre tous les acteurs qui sont en charge de l'environnement en Bretagne.
Et du coup, pourquoi l'OBE, Observatoire de l'environnement en Bretagne, OEB, il publie chaque année les chiffres clés de l'énergie et des gaz à effet de serre en Bretagne ?
Alors, c'est une publication qu'on fait en fait tous les 5 ans. Tous les ans, on publie le bilan énergétique régional qui sert au territoire, à la région Bretagne, au service de l'État, et puis à toute personne qui s'intéresse à l'énergie en Bretagne. Le plus généralement, c'est sous un format court. Et tous les 5 ans à peu près, on réalise une édition un peu plus détaillée. Donc ici, c'est une publication de 40 pages. C'est un travail qui prend 1 an et demi, donc quasiment à temps plein pour une personne, pour moi, mais aussi pour beaucoup de relecteurs et de partenaires qui sont impliqués. Il y a eu plus de 30 relecteurs impliqués sur cette publication. Donc c'est vrai que c'est pas un travail qu'on peut faire tous les ans.
Et qui étaient ces relecteurs ?
Alors, on a travaillé donc avec les principaux partenaires de l'Observatoire de l'environnement, que sont donc les membres fondateurs, l'État, les services de l'État représentés par la DREAL, la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement, mais également la région Bretagne. On a également l'ADEME, l'Agence de la transition écologique, qui intervient sur cette publication, et puis bien d'autres relecteurs, typiquement la Chambre d'agriculture de Bretagne, AILE, qui est une association qui intervient sur la méthanisation et les chaufferies bois en Bretagne. Le Brezalec, qui est un regroupement des agences locales de l'énergie et du climat en Bretagne. Et puis, je ne vais pas tous les citer, mais ils sont très nombreux. Ils sont tous listés dans la publication à la fin.
Et du coup, cette publication, elle s'adresse à qui concrètement ? Enfin, c'est pourquoi ?
Alors, cette publication, elle vise un public, alors principalement, je dirais quand même, de personnes qui travaillent sur ce secteur, donc les acteurs, les entreprises qui travaillent sur le développement énergie renouvelable pour les aider à avoir une vision globale sur ce qui se passe, où on en est, mais aussi, bien sûr, toutes les collectivités territoriales, que ce soit les services de la région, les services qui travaillent sur les plans climat dans les collectivités bretonnes, dans les 61 intercommunalités bretonnes, mais également toute personne qui s'intéresse au sujet de l'énergie, puisque l'idée, c'est aussi de donner des clés pour comprendre ce sujet qui est essentiel dans la période qu'on traverse, sur la transition écologique de manière générale, qui est vraiment au centre de beaucoup de discussions et de politiques. Voilà, donc ça s'adresse aussi à des personnes qui sont non initiées. L'objectif est que ce soit compréhensible. une dizaine de pages de méthodologie pour comprendre et donner des définitions, mais voilà, l'idée c'est que ça soit accessible au plus grand nombre.
Et du coup, vous disiez tout à l'heure que c'était un dossier d'une quarantaine de pages, donc quelles sont les principales sources de données qui sont utilisées et comment elles vont être collectées pour compléter ces 40 pages ?
Alors, c'est vrai que c'est un travail de long cours. On a une cinquantaine de sources qui sont mobilisées. Les principales, s'il faut en citer quelques-unes, ça va être les services d'études et de statistiques du ministère de la Transition écologique. Je ne sais plus le nom exact de ce ministère qui change très souvent de nom. Là, on va aussi retrouver les agences Auré et Audrey, qui sont des regroupements des distributeurs et transporteurs d'énergie. Donc, par exemple, Enedis, RTE, GRDF, Natran, qui se regroupent en fait et qui ont des open data communs. C'est vrai qu'on a eu des fortes évolutions sur les publications en données ouvertes ces dernières années, depuis la loi de transition énergétique sur la croissance verte. Et donc aujourd'hui, on a beaucoup de données en accès libre. Et justement, là où l'Observatoire a un rôle à jouer, c'est qu'il y a aujourd'hui tellement de choses qui sont accessibles et que c'est très difficile de s'y retrouver. Justement, notre métier principalement, ça va être ça, ça va être de collecter de la donnée existante, de la centraliser, de la fiabiliser et de la convertir en indicateurs qui vont être parlants et qui vont permettre de parler de ce qui se passe vraiment sur nos territoires.
Oui, pour rendre les choses plus concrètes à tout le monde. Et du coup, ce rapport, il se divise en plusieurs volets. Donc le premier volet, c'est la production énergétique. Et donc vous dites dans le rapport que la Bretagne, elle a été longtemps l'une des régions les moins productrices d'énergie. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui ?
Alors la production énergétique, elle s'est fortement développée depuis le début des années 2000, depuis 2005 à peu près, avec le développement des énergies renouvelables, l'éolien, les chaufferies bois, le solaire. Et elle a doublé entre 2012 et 2023, cette production énergétique, avec une croissance de 7% par an en moyenne. Donc c'est un développement qui est vraiment assez remarquable et en même temps qui suit aussi la logique du développement des énergies renouvelables dans les autres régions. En fait, la particularité, c'est que historiquement, la Bretagne a une production peu développée, notamment parce qu'il n'y a pas de centrale nucléaire. On est une des seules régions de France qui est dans ce cas-là. Donc c'est vrai qu'on est parti d'assez bas avec essentiellement quelques incinérateurs donc qui brûlent des déchets pour produire de l'électricité ou parfois de la chaleur. Quelques moyens de production au fioul, les centrales de Brennilis ou de Dirinon par exemple. Et le chauffage au bois qui est développé de manière historique dans les ménages bretons et qu'on comptabilise dans la production énergétique bretonne. Donc ça, c'est vraiment la base. Et depuis le début des années 2000, on a vu beaucoup d'autres filières arriver. J'ai cité l'éolien, on a aussi le développement de l'éolien en mer depuis la mise en service du parc éolien en mer de la baie de Saint-Brieuc. La méthanisation, bien sûr, les pompes à chaleur qui arrivent massivement dans les foyers bretons et qui permettent de chauffer quasiment 15% maintenant des logements bretons. Donc tout ça a permis effectivement de diversifier ce qu'on appelle le mix énergétique de production et d'arriver à une production qui est vraiment en forte croissance.
Donc si je comprends bien, il y a un peu un boom de la production énergétique bretonne avec les énergies renouvelables, parce que vous écrivez que les énergies renouvelables elles représentent 76% de la production. Mais quelle filière se développe plus ? Ça va être plus le solaire, l'éolien ou l'hydraulique
ça dépend un peu de quand on part, mais si on regarde par exemple sur la période 2012-2023, en fait, ce qui peut être assez étonnant, c'est que finalement, c'est la filière fossile qui s'est le plus développée en Bretagne, avec la mise en service de la centrale de Landivisiau. Après, bien sûr, là, tout est question de sur quelle période est-ce qu'on regarde. Par exemple, si on va regarder 2024, parce que les chiffres depuis la publication de ce dossier, les chiffres 2024 sont sortis. La centrale de Landivisiau a été bien moins appelée et par contre on a eu la mise en service du parc, la montée en puissance du parc éolien en mer de la baie de Saint-Brieuc, donc la production fossile est bien plus faible en 2024 qu'en 2023. Donc, ça dépend un peu de quand on regarde, mais globalement le fossile s'est beaucoup développé, notamment parce qu'il y a une grosse centrale qui a été mise en service, une centrale à gaz pour produire de l'électricité, aussi la cogénération au gaz, donc des chaudières qui vont... Donc, chauffer des serres agricoles qui brûlent du gaz pour ça et qui vont aussi produire de l'électricité. Ça, c'est la définition de la cogénération. On produit de l'électricité et de la chaleur. L'éolien terrestre aussi, c'est pas mal développé. Bien sûr, donc l'éolien en mer. La méthanisation, les pompes à chaleur. Voilà, c'est vraiment un ensemble de filières qui se sont développées pour atteindre cette production qu'on a aujourd'hui.
Donc on a atteint une certaine production, mais on n'est pas totalement indépendant non plus énergétiquement. Et du coup, quels sont les principaux points d'entrée de l'énergie importée en Bretagne ?
Oui, effectivement, aujourd'hui, là, en 2023, la production énergétique bretonne, elle permet de couvrir 22% de la consommation régionale. Donc effectivement, quand je parle de progression forte, c'est vraiment à moduler, puisque finalement, on ne couvre que 22% de la consommation. Donc ça veut dire que les volumes d'énergie importés restent énormes aujourd'hui. Donc on importe essentiellement des énergies fossiles, qui restent la première énergie qu'on consomme en Bretagne. Ces énergies fossiles, donc c'est des carburants principalement, qui arrivent par trois points. On a deux ports par lesquels on achemine des carburants, les ports de Lorient et de Brest. Et on a également un terminal pétrolier qui est le dépôt pétrolier de Verne-sur-Sèche, qui est finalement le point de livraison d'un oléoduc, un pipeline, qui relie la Bretagne à la raffinerie de Donges en Pays de Loire.
Ok, d'accord. Ah oui, donc ça vient un peu de partout. Et donc il y a un autre volet aussi, on produit de l'énergie pour qu'elle soit consommée. Donc là, ça va être le volet de la consommation énergétique. Enfin, on a vu qu'elle restait plutôt stable, même qu'elle est un peu en légère baisse. Comment l'expliquer ?
Alors, la consommation, en réalité, elle est en légère baisse, effectivement. Ensuite, on fait quelque chose qui s'appelle une correction climatique, c'est-à-dire que la consommation réelle, elle baisse un peu. Si on regarde la consommation corrigée du climat, elle est stable. La correction climatique,
c'est
en fait...
C'est quoi la correction ?
Voilà, okay. J'y viens parce que c'est un peu technique, mais grosso modo, si aujourd'hui, une partie importante de notre consommation énergétique est liée au chauffage. Le chauffage, évidemment, s'il fait beaucoup plus froid l'hiver, on va chauffer beaucoup plus. Mmh. Un hiver où il fait très doux, au contraire, on va chauffer beaucoup moins. La correction climatique, c'est simplement le fait de venir lisser les consommations énergétiques, celles qui sont, on dit, thermosensibles, pour dire celles qui dépendent du climat, et à quel point il fait froid l'hiver, on va venir les lisser pour les corriger des variations climatiques, pour pouvoir vraiment comparer deux années entre elles, et pas se dire « Ah, c'est super, on a réduit notre consommation énergétique de 10%, alors qu'en fait, juste, il a fait très doux cet hiver-là. Mmh. » Donc c'est quelque chose qui permet de réellement mesurer les efforts et les progrès qu'on fait en matière d'efficacité énergétique et de sobriété.
Ok, et donc aussi, il y a des mobilités alternatives qui apparaissent encore peu dans les chiffres. Qu'est-ce que cela signifie du coup pour l'avenir ?
Alors effectivement, aujourd'hui, les mobilités alternatives, elles se développent. Ce qui se développe le plus, c'est notamment le développement de la motorisation électrique. Alors j'ai plus le chiffre par cœur, mais vous retrouverez ça dans la brochure et dans les articles correspondants.
Ça vous incitera à aller le
voir.
Voilà,
c'est ça. on voit aussi quand même une progression du vélo dans les modes de transport, notamment pour les déplacements domicile-travail. On voit un développement du covoiturage. Et bien sûr, ces effets-là ne se traduisent pas encore par une baisse radicale de la consommation de produits pétroliers. Donc voilà, c'est ça qu'il va falloir amorcer, continuer, et dont on espère que ça va pouvoir se voir dans les chiffres dans les années qui viennent.
Parce que oui, du coup, comme ça, il pourrait avoir un impact aussi sur les émissions de gaz à effet de serre, qui est un autre volet du coup rapport. Donc on peut voir que les émissions de gaz à effet de serre, elles ont baissé de 11% depuis 2012. Et quels facteurs contribuent à cette diminution ?
Alors, les émissions de gaz à effet de serre, il faut savoir que le premier secteur responsable de la consommation, enfin des émissions de gaz à effet de serre, c'est l'agriculture en Bretagne. L'agriculture, essentiellement les émissions de gaz à effet de serre sont à 60%, elles sont liées à la consommation d'énergie. Mais pour l'agriculture, on va plutôt être sur un autre sujet que l'énergie, on va être sur des émissions non énergétiques, et notamment celles qui sont liées à l'élevage et à la culture des sols. Donc on va retrouver des émissions qui sont liées à la fermentation entérique des animaux et à des émissions de protoxyde d'azote au moment où on fertilise les sols en apportant des engrais. Donc rien à voir avec la consommation énergétique. Donc les émissions de l'agriculture, elles sont en baisse principalement parce que les cheptels diminuent. Donc c'est pas une politique d'atténuation du changement climatique, c'est le résultat d'évolutions structurelles dans le paysage agricole en Bretagne, mais qu'on voit aussi partout en France. Il y a moins d'exploitations, les exploitations partent à l'agrandissement et le cheptel est réduit.
Et du coup aussi, je voulais voir le dernier volet qui est par rapport à l'empreinte carbone. Donc l'empreinte carbone des Bretons, elle atteint 10,5 tonnes de CO2 par habitant. Comment elle est calculée? Qu'est-ce que recouvre ce chiffre? Et comparé aux années précédentes, est-ce que ça augmente, ça baisse? Enfin, qu'est-ce qui dit ce chiffre?
Alors, l'empreinte carbone, c'est vraiment une notion qui traduit nos modes de consommation. En fait, c'est l'indicateur qui va intégrer pas uniquement ce qu'on consomme chez nous, mais qui va intégrer les émissions de gaz à effet de serre associées à ce qu'on achète, à ce qu'on consomme ou à ce qu'on vend d'ailleurs, puisque ça va regarder les émissions dont on est responsable en importation et en exportation. Donc voilà, tout produit qu'on achète en Bretagne mais qui est fabriqué à l'étranger, si on regarde les émissions de gaz à effet de serre bretonnes, l'inventaire territorial, elles vont pas apparaître. Par contre, si on regarde l'empreinte carbone, là, elles sont comptabilisées. Donc ça se base sur une logique de comptabilité économique et de croisement avec le budget des ménages pour avoir une approche régionalisée et de coûts environnementaux de ces postes de dépenses. Voilà, donc ce que ça nous montre, c'est que alors déjà aujourd'hui, on est quand même bien au-delà des seuils qu'on souhaiterait atteindre pour rester sous la barre des 2 degrés, voire des 1,5 degrés de réchauffement. On est à 10,5 tonnes de CO2 équivalent, vous l'avez dit, en 2022, et il faudrait atteindre 2 tonnes pour limiter le réchauffement à 2 degrés d'ici 2050.
Oui, on en est bien loin quand même.
On en est bien loin.
Et donc juste pour terminer, en comparaison aux années précédentes, parce que ce rapport sort tous les 5 ans du coup, est-ce que on est plutôt en bonne voie ou la situation se détériore un peu?
Alors, c'est difficile. Je peux pas me positionner sur pour qualifier vraiment l'évolution de manière générale. Les émissions de gaz à effet de serre sont en diminution quand même, donc ça, c'est forcément un progrès. Les énergies renouvelables qui progressent, c'est aussi une bonne chose. Sur l'empreinte carbone, on n'a pas de point de comparaison, donc là-dessus, je peux pas vous dire. Donc, je dirais qu'il faut poursuivre les efforts.
Bah merci beaucoup en tout cas.
Merci à vous.
6 heures avant minuit.
C'est l'heure de la chronique et Roman est de retour pour sa chronique Play Pause Décrypte qui décortique un son. Qu'est-ce que tu vas nous décortiquer aujourd'hui, Roman?
Bah aujourd'hui, on va voyager dans le temps. On va aller en 1939, là où l'Allemagne nazie envahit la Pologne, la Seconde Guerre mondiale éclate. Le magicien Doz émerveille pour la première fois et Batman apparaît dans un comic. Aux États-Unis, la ségrégation étouffe des millions de vies. Au cœur de cette Amérique fracturée, une femme noire, Billie Holiday, prend le micro. Elle interprète Strange Fruit, un cri contre l'horreur, une hymne de résistance et un futur classique de l'histoire du jazz.
Southern trees bear strange fruit. Blood on the leaves.
C'est une musique de lutte contre le racisme dans une Amérique où les États du Sud pratiquent les lynchages, c'est-à-dire des exécutions en masse des Afro-Américains et des Afro-Américaines sans jugement en préalable. Les paroles sont crues, elles décrivent des corps noirs pendus aux arbres et les comparent à des fruits étrangers.
À l'époque, donc en 1931, on pouvait attraper des gens, les pendre aux arbres pour faire justice soi-même. Mais en plus, des gens se retrouvaient derrière pour faire la fête en famille. On imaginait des lynchages du Ku Klux Klan qui se passaient la nuit de manière plus ou moins cachée. Or non, ces meurtres se passaient au grand jour, menés par une foule entière et c'était profondément choquant.
De base, Strange Fruit est un poème écrit en 1937 par Abel Miropol. Avant d'être chanté, le texte circulait anonymement par peur des représailles. Billie Holiday hésite d'abord à l'interpréter, consciente que cette chanson serait mal perçue par les politiques. Elle finit par accepter, et dès sa première interprétation en 1939 au Café Society à New York, Strange Fruit deviendra sa signature.
Elle avait l'habitude de la chanter en fin de programme. Elle demandait le silence, les lumières s'éteignait, le noir se faisait. Il y avait juste un spot qui était braqué sur la chanteuse et elle gardait les yeux fermés pendant toute l'introduction et elle concluait la chanson par un cri, puis elle baissait la tête avant que ne se fasse le noir complet.
La sortie de Strange Fruit entraîne forcément des répercussions. La chanson est interdite dans plusieurs radios, les autorités tentent de la faire disparaître. Billie Holiday elle-même devient la cible du FBI qui cherche à l'empêcher de la chanter en public. Malgré la pression, le morceau s'impose comme une hymne antiraciste. Sa force traverse les générations avec plus d'une quinzaine de reprises, dont celle de Jeff Buckley, UB40 et Nina Simone.
Black bodies swinging in the southern breeze. Strange fruit hanging.
Même si Strange Fruit a été popularisé et enseigné dans les programmes scolaires, c'est une chanson qui continue de déranger. En 2017, Rebecca Ferguson est invitée à chanter pour l'investiture de Donald Trump. Elle accepte à une seule condition, pouvoir interpréter Strange Fruit, un titre blacklisté par les États-Unis car jugé trop controversé. Et je vous laisse deviner la réponse de Donald Trump.
Non.
Non, c'est un nom net et sans appel. Preuve qu'en 2017 comme en 1939, et sans doute encore en 2025, Strange Fruit n'a rien perdu de sa force.
Merci beaucoup Roman, et puis on écoutera Strange Fruit de Billie Holiday juste à la fin de cette émission. Mais avant, il faut qu'on écoute le répondeur parce qu'il est plein à craquer.
Le téléphone.
Téléphone.
Allô, allô.
Syllabe, la radio sauvage.
Oui, bonjour, bonjour. Je suis une de vos fans depuis quelques temps, en fait depuis septembre. J'ai découvert votre radio et je voulais vous féliciter toute cette jeune équipe. C'est super de vous écouter. Continuez comme ça. Ciao.
Waouh, elle était vraiment super dedans de cette émission. Tu veux continuer à t'éclater? Eh bien, rejoins-nous au 4 bis pour une super soirée. Signé débat, c'est vendredi soir, ce vendredi-là. À 18h30, on va regarder un film signé sous la comédie et l'humour qui s'appelle Des experts en bikini. On va papoter avec un bon apéro devant un bon film au 4 bis vendredi soir. À vite, à très vite.
Merci, chères auditrices. Alors, je tiens à préciser que le deuxième message, c'était vendredi dernier. Voilà, il n'y a pas eu d'émission avant, donc je le diffuse quand même. Au cas où, si la personne nous écoute, n'hésite pas à envoyer les messages bien plus en avant, parce qu'on n'a pas d'émission le vendredi. Donc là, c'était un peu trop tard. Mais bon, c'est pas grave, c'était une bonne initiative. Continuez, laissez-nous des messages. Je vous rappelle le numéro, c'est le 02 30 96 25 35. Merci Maud pour la technique. On s'écoute Strange Fruit de Billie Holiday, et je vous dis... Ciao.
Ciao.
Southern trees bear a strange fruit, blood on the leaves and blood at the root, black bodies swinging in the southern breeze, strange from the poplar trees. Pastoral scene of the gallant south, the bulging eyes and the twisted mouth, scent of magnolia, sweet and fresh. Then the sudden smell of burning flesh. Here is a fruit for the crows.
is to pluck for the rain together, for the wind to set, for the sun to rot, for the tree to dry. Here's a strange and bitter cry.
Avant minuit, minuit.
Qu'est-ce qui se passe?
Eh ben, il est 6 heures.
Le magicien n'est jamais en retard, ni en avance d'ailleurs. Il arrive précisément à l'heure prévue.
6 heures. Avant minuit.
Ils sont partis dans les couloirs du temps.
6 heures avant minuit, 18h, 19h, sur Syllabe,
la radio sauvage.